Actes chapitre 1, verset 1 à 21. Actes chapitre 1, verset 1 à 21. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait, en séjour à Jérusalem, des Juifs, des hommes pieux, de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans leur propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle ?» Partes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. » Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai apparaître des prodiges. En haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Bonjour à chacun. Vous avez certainement compris, il s'agit... Le texte qu'on vient de lire, il s'agit du texte central qui parle de la Pentecôte chrétienne et qui se trouve donc dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 1 à 21, nous venons de le lire. Et comme vous le savez peut-être, comme vous ne le savez peut-être pas, nous fêtons aujourd'hui cet événement important dans l'histoire du christianisme qui est la Pentecôte. C'est un événement qui est arrivé au tout début de l'ère chrétienne. Et je vous invite ainsi à méditer ce passage en divisant le message de ce matin en deux grandes parties. Une première partie qui sera consacrée à la signification biblique de la Pentecôte. Et une deuxième partie dans laquelle nous verrons quelles sont les implications de la Pentecôte dans la vie chrétienne. Voilà donc le grand plan que je vous propose ce matin. Alors d'abord, la signification de la Pentecôte. Alors à l'origine, la Pentecôte était une fête juive. Elle fait partie des fêtes solennelles qui étaient instaurées par l'Éternel. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire dans Lévitique au chapitre 23. Et vous verrez toutes les fêtes qui ont été instaurées par Dieu. Et littéralement, ça veut dire 50 jours. Parce que cette fête de la Pentecôte juive se situait 7 semaines environ après la fête de Pâques, est marquée la fin de la moisson, la moisson des céréales, notamment. C'est pourquoi on l'appelait aussi la fête des moissons. Et à cette occasion, le peuple manifestait sa joie envers Dieu, sa reconnaissance du fait que Dieu pourvoit leurs besoins, fait pousser le blé de la terre. Alors donc, il s'agissait d'une fête, elle serait perdue, donc une fête religieuse, mais qui avait une connotation aussi agricole. Mais plus tard, les religieux juifs en ont changé le sens, et elle est devenue un souvenir de la promulgation de la loi au mont Sinaï. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce fameux jour, mentionné dans Actes 2, dont on vient de lire? Donc c'était le jour de la Pentecôte juive. Donc 50 jours après la fête de Pâques, c'est une fête de pèlerinage. Donc tous les juifs dispersés un peu partout, en Asie mineure, en Europe, parce qu'il parlait de Rome tout à l'heure, sur le continent africain, Cyrène, Libye, Égypte, ils viennent tous à Jérusalem pour cette occasion. Il y avait trois grandes fêtes qui étaient les fêtes de pèlerinage, c'était Pâques, Pentecôte et la fête qu'on appelle la fête des tabernacles. Et là, pendant ce jour de Pentecôte, les disciples sont réunis dans une chambre. Et là, il y a des phénomènes inhabituels, étranges. On parle d'un grand bruit dans le ciel, un vent impétueux, des langues ressemblant à des petites flammes qui se posent sur chacun des disciples. Et résultat, ils sont remplis du Saint-Esprit. Et ils annoncent les merveilles de Dieu dans des langues étrangères. Donc voilà pour les faits. Et maintenant, je propose de faire un petit retour en arrière, plusieurs siècles auparavant. Joël, qui est un prophète dans l'Ancien Testament, avait donné une prophétie, un oracle, selon lequel Dieu va promettre de répandre son esprit sur son peuple. Après cela, moi, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards par des songes, vos jeunes gens par des visions recevront des révélations. Et même sur les serviteurs, sur les servantes, moi, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Et c'est justement ce passage dans Joël que cite l'apôtre Pierre quand de nombreux témoins du phénomène se posent des questions. On l'a vu tout à l'heure dans les versets 17 à 21. C'est le verset c'est le passage de l'Écriture qui est évoqué par Pierre. Mais un peu plus tôt, Jésus faisait aussi allusion à cette promesse divine. Après sa résurrection, il avait dit « Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. » C'est dans Luc 24, 49. « Vous, donc, restez ici dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, en parlant de l'Esprit Saint qui allait venir. » Dans Actes chapitre 1, versets 4 à 8, avant de monter vers son Père, Jésus réitère cette promesse à ses disciples. « C'est le don que je vous ai annoncé. Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Et donc là, Jésus-Christ faisait allusion à une parole de Jean-Baptiste, peut-être que vous la connaissez, qui dit « Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, vous baptisera dans le Saint-Esprit. » Dans Marc chapitre 1, verset 8. Donc autant de passages, autant d'indices qui nous permettent de conclure que cet événement de la Pentecôte dans Acte chapitre 2 n'est autre que la promesse du baptême dans le Saint-Esprit qui se réalise. Et il est important de préciser que les premiers bénéficiaires de ce baptême dans le Saint-Esprit étaient d'abord les disciples. Nous l'avons lu tout à l'heure. La Pentecôte chrétienne, c'est un peu comme le jour J, le D-Day, le débarquement du Saint-Esprit dans le cœur des disciples. Et en fait, les disciples, ils inaugurent une nouvelle ère, l'ère où l'Évangile sera annoncé à toutes les nations, sans exception, et où le Saint-Esprit sera répandu sur tous qui reconnaîtront Jésus-Christ comme leur maître. Alors, avant la Pentecôte, les disciples étaient déjà au bénéfice de la purification. Dans Jean chapitre 15, verset 3, Jésus dit « Vous êtes déjà purs à cause de ma parole. » Mais par cette réception particulière de l'Esprit, par ce baptême dans l'Esprit, Jésus va équiper les disciples d'une manière vraiment particulière, d'une manière spéciale, pour être les témoins de Christ. Et c'est là, ça va être le début de l'Église. Quand ils vont témoigner de leur foi, eh bien, ils vont constituer petit à petit le nouveau peuple de Dieu qui va former l'Église. Hein, l'Église, ce n'est pas les quatre murs, hein, c'est vraiment le rassemblement, l'ensemble des rachetés, l'ensemble des chrétiens. Et cette Église, ce nouveau peuple de Dieu sera formé des juifs convertis, hein, aussi, bien sûr, mais aussi de tous non-juifs. Tous les autres peuples qui mettront leur confiance en Jésus. Donc voilà pour la signification de la Pentecôte chrétienne. Et je vous propose maintenant, dans un deuxième temps, de voir quelles sont les implications de cette Pentecôte, du baptême dans l'Esprit. Nous voyons dans le passage que nous avons lu que la première chose que font les disciples quand le Saint-Esprit descend sur eux, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? On l'a lu tout à l'heure. Vous vous souvenez plus ? Ils témoignent, ils parlent. Pardon. Ils parlent dans des langues étrangères. Est-ce que c'est pour juste dire, parler du beau temps ou du mauvais temps ? Tiens, je parle dans des langues étrangères, c'est merveilleux, comment tu vas, ton voisin ? Non. C'est d'abord pour témoigner. Le Saint-Esprit pousse d'abord au témoignage de sa foi. C'est ce qu'ont fait les disciples. Ils annoncent les merveilles de Dieu, verset 4 jusqu'au verset 11. C'est la première chose qu'ils font. Et après, Pierre, en porte-parole de ses disciples, prêche avec force, avec persuasion, tant et si bien qu'à la fin de sa prédication, les personnes qui sont là, et c'était des milliers de personnes, hein, sont touchées par cette prédication, par la force de l'Esprit qui est en Pierre. Et beaucoup se demandent, que devons-nous faire alors dans ces cas-là ? Parce que cette prédication parlait de Jésus, le Messie qui a été rejeté. Et Pierre dit, repentez-vous, vous recevrez le pardon et faites-vous baptiser. Donc 3000 personnes s'ajoutent au nombre des croyants se font baptiser. Et le livre des Actes des Apôtres, qu'on a parcouru pendant quelques semaines, hein, vous vous en souvenez, c'est un récit extraordinaire de la propagation de l'Évangile à partir de ce jour de la Pentecôte, dans la province de Judée et de Samarie, hein, jusqu'à toutes les nations. Alors, dans le livre des Actes, cette progression de la bonne nouvelle s'arrête temporairement, bien sûr, hein, parce que le livre des Actes s'arrête au moment où Paul est dans une ville européenne, à Rome. Hein. Donc, il s'arrête à Rome, mais après, on sait qu'elle a toujours progressé grâce à l'action du Saint-Esprit qui a poussé les chrétiens à témoigner de leur foi. Et aujourd'hui encore, l'Esprit Saint suscite aussi des vocations missionnaires pour convaincre des personnes à partir loin pour répandre la bonne nouvelle. Moi, je suis toujours émerveillé quand je vois des personnes, des jeunes notamment, ou des moins jeunes aussi, hein, bien sûr, qui se sentent appelés par Dieu pour annoncer la parole de Dieu au loin. Et on en connaît quelques-uns, hein, dans notre église que l'on soutient. Hein. Nous avons des missionnaires que l'on soutient et qui sont au Niger, hein, Julie Kael et Anna Marquez. Il y a Céline de Quéron, qui va bientôt finir d'ailleurs cette année, hein, qui est en Côte d'Ivoire. Il y a aussi le couple Philippe et Morgane Soudrin qui vont partir bientôt au Cameroun, etc. Donc voilà, pensons à soutenir ses frères et ses sœurs dans la prière. En tout cas, je dirais que la Pentecôte chrétienne, c'est le point de départ d'une gigantesque campagne d'évangélisation. Énorme. Après avoir reçu le Saint-Esprit, les disciples ne peuvent pas s'empêcher de témoigner de leur foi. Il dit, nous ne pouvons pas garder silence sur ce que nous avons vu et entendu. Actes chapitre 4, verset 1. Et nous, frères et sœurs, le Saint-Esprit qui est en nous pousse-t-il à témoigner de notre foi ? En tout cas, les disciples sont devenus des prédicateurs inlassables, au point même d'être arrêtés et mis en prison. Et même lorsque c'était le cas, la parole dit qu'ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Joyeux. Ce n'est pas du masochisme, mais le résultat vraiment extraordinaire de la plénitude de l'Esprit en eux. Regardez Étienne, hein, le premier martyr de l'ère chrétienne. Il a été lapidé à cause de sa prédication. La parole nous dit qu'il était rempli de l'Esprit, qui le poussait malgré le danger. Il savait qu'il était devant une foule qui était opposée, une foule hostile. Il a prêché quand même. Il ne pouvait pas s'empêcher de le faire. Il en a payé. Il en a payé de sa vie. Hein. On voit donc que le Saint-Esprit pousse à témoigner avec une sagesse et audace que les disciples n'avaient pas auparavant. Parce qu'ils ont été transformés. Ils ont été carrément métamorphosés. Parce que le Saint-Esprit aussi est un esprit qui transforme. Et il transforme le caractère. Les disciples n'étaient plus les mêmes hommes. Avant, si vous regardez dans les évangiles, les évangiles dépeignent les disciples comme des gens craintifs, un peu qui ont toujours peur, qui suivent Jésus par derrière, et qui ont peur. D'ailleurs, Jésus va dire fréquemment, « N'ayez pas peur, je suis là !» Et même Pierre, téméraire, il avait dit, « Je suis prêt à aller avec toi en prison jusqu'à la mort !» Eh bien, c'est vrai qu'au jardin de Gethsémané, il a tenté quand même de résister, mais résultat des courses, il a renié son maître 3 fois, parce qu'il avait peur. Les disciples étaient sans doute dévoués, mais ils avaient un caractère plutôt craintif. Mais à partir de cet événement de la Pentecôte, transformation radicale. Pierre courageusement prend la parole devant plusieurs personnes, devant toute une foule. Et là, vraiment, on voit qu'il y a un courage surhumain qui est donné par le Saint-Esprit à ses disciples. Et un courage surhumain à tel point que certains le paieront de leur vie. Dans le livre des Actes, au chapitre 12, on voit que Jacques, qui était un des disciples, a été transpercé par l'épée, a été tué par Hérode. Et semble-t-il, selon la tradition chrétienne, tous les apôtres, sauf Jean, semble-t-il, auraient été martyrisés jusqu'à la mort. Nous ne connaissons pas vraiment la véracité de ces textes, on va dire, traditionnels chrétiens. Vous avez peut-être entendu à droite, à gauche, le sort, entre guillemets, de tous ces apôtres. Mais en tout cas, une chose est certaine, aucun apôtre n'a renié son Seigneur. Ils avaient ce courage surhumain pour tenir jusqu'au bout. Nouveau caractère, mais aussi nouvelle intelligence. Avant la Pentecôte, les disciples étaient plutôt lents à comprendre les choses, lents à comprendre l'enseignement de Jésus. Alors, bien qu'il y ait certainement parmi les 12 disciples certains qui étaient plus intelligents que d'autres, la plupart étaient quand même issus d'un milieu modeste, des pêcheurs à la ligne, au filet plutôt. Et certains commentateurs bibliques estiment qu'une bonne partie des disciples étaient probablement analphabètes. À peine savaient lire ou écrire. Peut-être à part Matthieu qui était péagé, donc il fallait quand même qu'il sache écrire et calculer. En tout cas, maintes et maintes fois, Jésus a relevé chez les disciples une certaine difficulté à saisir son enseignement. Et il le dit même en Marc 7, 18, il dit « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence ?» en parlant à leurs disciples, à ses disciples. Et il met en lumière donc la limite de l'intellect, de l'intelligence des disciples. « Ne comprenez-vous pas encore ? J'ai beaucoup d'autres choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas comprendre. » Et tout ceci donc pour montrer que les disciples ne pouvaient pas encore mesurer dans son entièreté la profondeur de l'enseignement de Jésus. Et il faut se mettre à leur place, quand même. On se dit « Oh, mais c'est pas possible qu'ils ne comprennent pas. » Mais leur maître était en train de dire « Je vais mourir, je vais être livré aux mains des Juifs. » Et ensuite, je ressusciterai le troisième jour. Nous, on comprend parce qu'on voit la parole. Mais eux, mettez-vous à leur place. Mais c'est quoi cette histoire? Et même quand Jésus a été ressuscité, il leur a apparu, ils ne se souvenaient plus de cet enseignement. Ils eurent des doutes. Ils ne savaient pas est-ce que c'est vraiment Jésus. Et c'est là seulement qu'ils se souvenaient. Ah oui, effectivement, c'est ce qu'avait dit le Seigneur. Et après la Pentecôte, la parole de Dieu nous montre des disciples, encore une fois, complètement transformés. Le Pierre qui avait du mal à comprendre l'enseignement de Christ, il avait désormais tout compris. Un sermon qui est un modèle du genre. Il a délivré un message, une prédication extraordinaire. Il commence d'abord par citer le prophète Joël et il le cite par cœur. Il annonce l'accomplissement de cette prophétie en Jésus. Il affirme que la mort de Jésus à la croix fait partie du plan de Dieu. Il appuie ses affirmations par des citations de David aussi. Et Pierre donc devient un brillant orateur, un brillant défenseur de la cause de Jésus, grâce encore une fois à l'action de l'Esprit sur lui. Et plus tard, dans le chapitre 4 du livre des Actes, les chefs religieux vont dire aussi, Ils vont être étonnés, ils vont voir l'assurance des disciples, notamment de Pierre et Jean. Ils vont dire, voilà, mais est-ce que ce n'est pas des gens simples sans instruction? Comment se fait-il qu'ils arrivent à dire tout ça, à faire tout ça? Des gens simples et sans instruction, certes, mais dont l'intelligence a été transformée, a été renouvelée par le Saint-Esprit, à tel point que certains ont été divinement inspirés pour être les auteurs d'évangiles. Matthieu a écrit l'évangile de Matthieu, Jean a écrit l'évangile de Jean, il a écrit aussi trois autres lettres, Pierre a écrit la première et la deuxième épître, et peut-être d'autres qui ne sont pas parvenus, on ne sait pas. Et Jean a aussi écrit l'Apocalypse, hein, vous le savez. Bon, en tout cas, nouvelle intelligence. Et à partir de la Pentecôte aussi, le Saint-Esprit est disponible pour tous. Hein, si on revient à notre texte de ce matin, on remarque que le phénomène qui a suivi la réception du Saint-Esprit par les disciples, c'est un phénomène assez frappant. Tous les disciples, on l'a lu tout à l'heure, s'adressent à la foule dans des langues différentes, correspondant à des dialectes étrangers qui sont audibles donc et compréhensibles par toutes les personnes qui sont là. Pourtant, ces personnes viennent de contrées étrangères. Et c'est le signe que désormais, l'Évangile est disponible pour toutes les nations. Pas seulement que les Juifs. Même si le jour J, il y avait surtout des Juifs, mais il y avait aussi ce qu'on appelle des prosélytes, c'est-à-dire des personnes non-juives qui sont sympathisantes de la religion juive. Mais en tout cas, c'est le signe que, dorénavant, l'Évangile est pour tous. Et l'Esprit est également offert à tous ceux qui deviennent disciples du Messie. Tout comme les disciples sont également au bénéfice de l'action de l'Esprit-Saint. Et d'ailleurs, la parole nous l'affirme dans 1 Corinthiens 12, 13, qui dit « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec. » Alors quand on parle de grec, c'était tous ceux qui n'étaient pas juifs. Hein. C'était la manière de dire, dans d'autres versions, vous avez les gentils ou les païens. Hein. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le Saint-Esprit, donc, est disponible maintenant pour tous. Et le Saint-Esprit transforme encore aujourd'hui. Voilà le dernier point que nous allons voir. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité, n'a pas non plus changé. C'est ce même Esprit plein de puissance qui anime le cœur des croyants aujourd'hui même. Et si nous reconnaissons Christ comme notre seul Seigneur, notre seul Sauveur, eh bien le Saint-Esprit viendra aussi habiter en nous. Et nous serons transformés aussi comme l'ont été les disciples de Christ. Nous ne serons plus l'homme et la femme que nous étions avant. Si nous avons sincèrement confessé nos fautes, le Saint-Esprit nous poussera d'abord à la repentance, hein, c'est-à-dire la volonté de nous détourner de notre vie passée, une vie qui ne glorifiait pas Dieu. Mais ensuite, le Saint-Esprit commencera une œuvre de karcher. Il fera en quelque sorte le ménage dans notre cœur, en nous montrant petit à petit tous les domaines de notre vie qui doivent être soumis à sa volonté. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience en disant, bah oui Seigneur, tu me montres que là, ça ne va pas dans ma vie. Et là, c'est le Saint-Esprit qui agit. Il y a des mauvaises habitudes à abandonner. Il y a des fréquentations, des mauvaises fréquentations à renoncer. Des types de lectures à arrêter, à proscrire. Des genres de musique peut-être, ou de films à rejeter. Dans ma jeunesse, j'aimais beaucoup le hard rock. Je ne savais pas exactement ce que c'était, mais j'aimais bien la musique. Il y a un groupe que j'aimais bien qui s'appelle AC/DC. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Ça, c'était avant que j'accepte Christ dans ma vie comme étant mon maître. Et une fois que j'ai connu le Seigneur, une fois que j'ai commencé à le connaître davantage par la lecture de sa parole, et une fois que le Saint-Esprit est venu habiter en moi, il y a quelque chose qui m'a dit, « Mamie, vérifie un peu. » J'écoutais encore CDC, mais « Vérifie un peu les paroles de ces chants. » Effectivement, je n'ai jamais fait attention vraiment aux paroles. Et puis, il y en avait un qui me... Le Seigneur m'a montré vraiment, tiens, regarde ces paroles-là. Et le titre, c'était « Highway to Hell ». Ça veut dire « L'autoroute vers l'enfer ». Et pourtant, auparavant, je chantais à tue-tête ce refrain. Et je me suis dit, Seigneur, là, tu es en train de montrer que ce genre de musique, c'est terminé. Alors, j'en fais pas, si vous voulez, une règle générale. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai vu tout de suite que c'était une musique mauvaise. Mais en tout cas, si vous avez aussi ce genre de musique chez vous, même si j'ai dit tout à l'heure que j'en fais pas une règle générale, vérifiez quand même les paroles. Regardez un peu ce que ça veut dire. Parce que parfois, on parle aussi d'hard rock chrétien. Alors là, c'est une autre... Je ne vais pas en parler aujourd'hui, hein, je vous rassure. Mais voilà, il y a des choses qui changent dans la vie. Il y a aussi peut-être des situations maritales à régulariser. Il y a un couple qui s'est fait baptiser, il n'y a pas très très longtemps, qui habitait en union libre. Et ils se sont convertis et se sont aperçus que le concubinage n'est pas à la gloire de Dieu. Donc si on est chrétien et que si on est dans cette situation-là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut qu'on le sache. Et ce couple d'ailleurs s'est séparé momentanément jusqu'au mariage. Ils ont demandé pardon à Dieu, ils se sont repentis. Et puis ensuite, ils se sont mariés. Dieu est un Dieu de grâce. Mais ils se sont rendus compte que leur situation était irrégulière devant Dieu. Donc je ne sais pas si c'est le cas pour quelques-uns d'entre nous. Mais en tout cas, que le Saint-Esprit nous éclaire, nous montre vraiment. Quelle est sa volonté? Et c'est son rôle, le Saint-Esprit, de faire le ménage, pour que nous soyons purifiés dans notre être intérieur. Et une parole qui dit que celui qui est uni à Christ, il devient une nouvelle création, une nouvelle créature. Et qui dit nouvelle créature, dit nouveau caractère, on a vu, nouvelle intelligence, nouvelle valeur, nouvelle façon de voir les choses, nouvelle espérance, nouvelle vision, nouvelle vocation. Et la nouvelle vocation du chrétien, comme celle des disciples, sera aussi de proclamer les merveilles de Dieu autour de lui, d'annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, avec la force que lui donne le Saint-Esprit. Et par ailleurs, la parole de Dieu affirme que Dieu nous a donné un esprit, non pas un esprit de timidité, mais un esprit qui nous rend fort, aimant et réfléchi. Donc ça, c'est la parole de Dieu, dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Donc Paul dit à Timothée, dit « N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. » Le Saint-Esprit, frères et sœurs, devrait nous inciter à témoigner sans honte. C'est pas normal si après tant et tant d'années de vie de chrétien, on a toujours honte de témoigner de notre foi. Ne laissons pas le Saint-Esprit sous les témoins. Laissons-le agir dans notre cœur. Alors nous ne passerons peut-être pas forcément du jour au lendemain de la timidité, si nous étions vraiment très, très timides, à l'audace, ou de l'ignorance à la science infuse d'un coup comme ça, mais en tout cas, le Saint-Esprit nous conduira à une transformation progressive de notre être et nous aidera à comprendre petit à petit les choses spirituelles qui nous semblaient peut-être obscures avant que nous connaissions le Seigneur. Je ne sais pas si c'est votre cas, il y a certains versets qui deviennent clairs. « Mais Seigneur, c'est ce que tu voulais dire !» Je n'avais jamais compris ce passage. En conclusion, chers amis, dans notre texte de ce matin, les disciples prêchaient donc cet évangile dans plusieurs langues, qui étaient comprises par tous les juifs qui étaient présents et qui venaient d'horizons différents. On a parlé de la Mésopotamie, de la Cappadoce, de la Phrygie, de la Pamphylie. Bon, ce sont des contrées qui n'existent plus sous ce nom-là. Quoi qu'il y a encore l'Égypte, la Libye, bien sûr aussi, Rome, Crète. Tous ces peuples pouvaient maintenant recevoir le Saint-Esprit s'ils reconnaissaient Jésus-Christ comme leur Messie. La Pentecôte était quelque part le signal de départ qui marque le début de l'Église dont nous faisons partie aujourd'hui. C'était un événement historique unique, au même titre que la crucifixion, la résurrection ou l'ascension de Christ, un événement historique par lequel Jésus a répandu l'Esprit sur ses disciples, leur donnant le mandat d'être des témoins. Vous serez mes témoins en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce, pour fonder le nouveau peuple de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors aujourd'hui, si on regarde autour de nous, chers amis, dans notre église de Palaiseau, il n'y a pas des Phrygiens peut-être, pas de Cappadociens, mais en tout cas, il y a des Français, il y a des Malgaches, il y a des Béninois, il y a des Mauriciens, il y a des gens, des Américains, il y a des gens de Haïti, de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Côte d'Ivoire, Centrafrique, Cameroun, Venezuela, Pérou, île du Cap-Vert, Algérie, Corée du Sud, Afrique du Sud, Guinée, Congo, Japon, Belgique, Suisse, Chine, etc. J'en ai oublié peut-être, est-ce que j'en ai oublié? La Russie, Belge, enfin oui, bien sûr. Il y a peut-être des Suisses aussi, je l'ai dit peut-être tout à l'heure. Rendez-vous compte donc. Le Saint-Esprit est disponible aujourd'hui pour toutes ces nationalités. Et parmi nous ce matin, beaucoup ont certainement déjà accepté Christ comme étant leur Seigneur et leur Sauveur. Mais ce n'est peut-être pas le cas encore pour tout le monde présent parmi nous ce matin. Et nous qui sommes encore dans le questionnement, peut-être dans le doute, dans l'hésitation, ben Dieu tend encore sa main. Parce que Dieu est un Dieu de grâce qui aujourd'hui veut encore sauver. Il nous appelle à reconnaître notre misère, nos péchés, en mettant notre confiance en lui, en acceptant son pardon. Et une fois que nous avons accepté son pardon, une fois que nous avons mis notre confiance en lui, chers amis, la parole dit que le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous et nous deviendrons le temple du Saint-Esprit, rendez-vous compte. Le Saint-Esprit qui n'a jamais changé, toujours le même, avec la même puissance. En tout cas, l'enjeu est une question de vie ou de mort. Qui place sa confiance dans le Fils de Dieu possède la vie éternelle, dit la parole. Mais qui ne met pas sa confiance dans le Fils de Dieu ne connaît pas la vie et reste sous le coup de la colère de Dieu. Il n'y a pas de position intermédiaire. Soit on est avec le Seigneur, soit on est sous la colère du Seigneur, c'est-à-dire contre le Seigneur. En tout cas, si aujourd'hui nous désirons mettre toute notre confiance dans le Seigneur Jésus, nous serons aussi au bénéfice de ce Saint-Esprit. Parce que le souhait de Dieu, c'est que tous puissent être sauvés, tous puissent parvenir à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le désir de Dieu. Et la question de ce matin, c'est quel est notre désir aujourd'hui? Si nous ne sommes pas encore au Seigneur, est-ce que nous avons entendu cet appel à venir à lui, à nous soumettre à lui pour recevoir le pardon de nos péchés, pour recevoir la vie éternelle, pour recevoir cet esprit en nous? En tout cas, que l'appel au salut de notre Seigneur puisse être largement entendu ce matin. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci aussi pour ton esprit, Seigneur. Il y a plus de 2000 ans, tu l'as répandu sur tes disciples. Et à partir de ce moment-là, Seigneur, nous avons pu bénéficier aussi de l'action de cet esprit jusqu'à aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Merci pour cette assurance que tu vis en nous par ton esprit, que ton esprit est là pour nous transformer de jour en jour, pour nous diriger, pour nous conseiller, pour nous consoler aussi, pour nous aider à comprendre, Seigneur, certaines choses qui était obscur auparavant. Merci Seigneur pour ton esprit. Et ce que je te demande Seigneur aujourd'hui aussi, c'est que celles et ceux qui ne t'ont pas encore accepté, qui n'ont pas encore fait ce pas de foi en venant à toi, puissent le faire effectivement, se dire Seigneur, oui, maintenant je veux venir à toi, je veux t'appartenir, je veux être sauvé de mes péchés, je veux avoir cette vie éternelle et je veux que tu sois le maître de ma vie aujourd'hui et éternellement. En ton nom Jésus. Amen.